dépose notamment de Mao Tse-Tung. Exemple type aussi, vous allez faire des mesures actives, vous allez vous prendre en fait, pas seulement contre l'adversaire, l'adversaire capitaliste, comme il le voyait, mais aussi pour viser leurs alliés, pour les influencer dans un sens qui leur soit plus favorable. Par exemple, pour essayer de monter à poser la table, à l'époque président Sénat, contre son frère et son ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui étaient plus pro-occidentaux. Donc il fallait d'une manière ou d'une autre les écarter. C'est ce que ils ont fait. Alors au sein du KGB, à l'époque, vous aviez le président au sein de la fin de la principale, c'était le SAM A qui faisait ça, parce qu'il y avait des mesures actives, mais des réprimandes, des mesures actives, et il pouvait disposer de l'aide d'autres branches pour faire cela. Troisième direction du KGB contre le service militaire, deuxième direction contre le spionnage classique, etc., etc. Alors, ensuite, diapositive suivante, s'il vous plaît. Le changement du côté des routes, ça intervient dans les années 90. Alors, je vous ai mis deux textes. Alors, le premier.
Voilà.
Ah, je crois qu'il y a quelques problèmes dans la technologie. Voilà. Ah, d'ailleurs. Alors, page suivante. Alors, primo, je relis aussi ce qui concerne les questions d'ingérence et aussi plus largement le guerre hybride, sous deux angles. Primo, c'est la définition, une des définitions que les Russes donnent de la sécurité. Ça, c'est la loi de 1992 sur la sécurité. Et en fait, ils en ont une conception très large. Il faut comprendre cela. C'est-à-dire que pour eux, la sécurité, ce n'est pas que le militaire. Non, la sécurité implique des mesures ordonnées, économiques, militaires, politiques, etc., etc. Et ça, donc, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'ils ont cette conception-là. Alors, je ne l'ai pas montré dans les documents, mais cela donnait lieu, par exemple, pour des programmes, par exemple, vous prenez leur programme sur l'Arctique, pour le développement de l'Arctique actuel, cela, vous avez tout un programme très détaillé, où point par point, on va vous dire, voilà, telle mission, et telle famille, c'est ça, FSB, ministère de l'économie, etc., etc. Alors, le deuxième point, c'est en tout que je vais vous montrer, c'était l'article, c'était la loi numéro 5FZ du 10 janvier 1996 sur le renseignement extérieur, là aussi, je rattrape ça à la guerre hybride. Pour une raison très simple, non, c'est plus haut. C'est plus haut. Stop. Parfait, merci. Alors, activité de renseignement, comment ils définissent ça? Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est l'article 2. Le point 1, c'est donc collecte, traitement de l'information, activité classique d'attaque de renseignement. Mais le petit 2 en dessous, apporter du soutien pour la mise en œuvre de mesures menées par le gouvernement. Oui, parce que, vous le savoir, les Russes ont renommé les mesures actives en mesures de soutien. Il y a des étudiants. En passant, même au SDR, je voyais dans une histoire officielle, ils utilisent aussi ces termes. Donc, le petit 2, en gros, apporter de l'aide et du soutien pour la mise en œuvre de mesures, c'est une manière de légaliser. Alors, point suivant, je vous prie. Alors, je passe sur. Alors, malheureusement, je vous recommande aussi vivement l'ouvrage, de Dimitri Minik, qui est un de mes collègues, qui est dans le même groupe de chercheurs, qui a beaucoup écrit sur la question justement de la, du changement de la mentalité russe, de la culture militaire, de la fameuse doctrine Gerasimov, comme on l'a appelé. Vous savez, c'est un peu vu comme un. La doctrine officielle sur la guerre hybride russe. Bon, c'est quand même plus compliqué en fait, parce que vous avez des penseurs qui ont réfléchi dès les années 90 côté russe sur le sujet, comme Bartov par exemple, et à partir de. Et vous avez, en gros, ils ont nourri ce débat. Et pourquoi ils ont fait ce débat? C'est que les Russes, ils sont obsédés par les Américains. Donc, si jamais ils voient que les Américains font quelque chose, tout de suite ils se disent nous sommes en retard, nous devons rattraper. Et ça, mon collègue Dimitri Minik le montre très bien dans le domaine justement des concepts militaires, des hybrides, contournement de la lutte armée, comme il le dit. Là, je vous ai mis un exemple, c'est un article que j'avais fait pour Air et Cosmos en 2020. J'avais fait un article sur l'utilisation des drones en Syrie par les Russes. Et cet exemple est assez parlant. Vous aviez Boeing qui avait un projet de drone dès les années 1970, tout de suite en 1970, c'est pour qu'on s'y mette. Et ils ont lancé un projet, alors ça fait Oriol, il n'a pas abouti, peu importe. Mais vous voyez un peu l'idée. Et vous retrouvez comme ça cette obsession chez eux, à la fois d'innover, mais aussi de ne pas être en retard. Alors parfois, dans le domaine, ils n'arrivent pas à innover, et ils se sont retrouvés des copies, mais il y a alors, suivant, s'il vous plaît, je vais vous montrer un exemple, alors c'est très paradoxal, stop. Oui, c'est très paradoxal. Les Russes se sont beaucoup mis justement sur. ces ingérences, nous avons en souvenir dans les années 2000 quand ils se sont attaqués au site internet. Alors, je vous dis, c'était les Estoniens ou les Lettons, mais ils ont mis par terre le site. Durant la guerre de Géorgie, ils ont fait pareil, de toute façon. À tel point que, de mémoire, l'un des sites officiels géorgien avait dû se réfugier sur Blogspot. C'est une plateforme pour les blogueurs. Et vous revoyez cette obsession de nouveau, c'est très fort chez les Russes. Il s'est avéré que ce qui leur a fait vraiment peur, ce qui les a vraiment heurté, c'était la stratégie de sécurité nationale de 2017, donc signée par Donald Trump, qui était beaucoup plus dure à l'égard de la Russie que celle de 2015. Je dis qu'ils doivent se faire l'armée pour une raison. Alors, je vous ai dit pourquoi, parce qu'il dit pourquoi ils doivent se faire l'armée, à cause du contenu, qui est plus offensif, beaucoup plus agressif. Par exemple, les sanctions ne sont plus vues, comme dans celle de 2015, comme une réponse aux menaces, mais dans celle de 2017 pour eux, pour les Américains, c'est un moyen parmi d'autres de la diplomatie économique. C'est pareil sur le cyber, le leadership technologique. Alors, pourquoi... point suivant, s'il vous plaît. Voilà. Je vous donne un exemple. Voilà. C'est un communiqué du Conseil de sécurité russe. Date 20 avril 2018. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Nikolai Patrouchev a mené une réunion de la commission interministérielle du Conseil de sécurité au problème de planification stratégique. Alors, petit aparté sur la planification stratégique, parce que c'est un sujet très important, on en parle très peu à l'ouest, c'est une grosse erreur. Les Russes sont revenus à l'idée, depuis plusieurs années, qu'il faut planifier par avance les activités. Donc, il faut faire des plans sur le court, le moyen, le long terme, en fixant des objectifs. Grosse différence avec la période soviétique. Si pendant la période soviétique, vous aviez des objectifs impératifs, là, quand ils ont commencé à organiser des tables rondes sur le sujet, ils se sont dit, le modèle soviétique n'a pas fonctionné, l'objectif impératif, ça ne marchera pas, il faut donc choisir un modèle indicatif. Et je travaille beaucoup sur ce sujet, parce que c'est dans ce cadre de cette planification stratégique aux questions sécurité nationale que je vous prends la coordination du renseignement. Voilà. Et c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 2 ans, plus de 300 articles et de documents toujours que je vais examiner, quand je passe les détails, ça fait déjà un ouvrage qui fait plus de 120 pages, et encore, je n'ai pas terminé. Et donc, dans le cadre de ce président du Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'il y a eu pouvoir sur blanc, première ligne, ont été examinées les mesures supplémentaires pour assurer la sécurité de la Russie du fait de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine. Voilà, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, action-réaction. Donc là, ils ont dit, les Américains veulent étendre le champ des mesures contre nous, y compris dans le domaine informationnel, on doit répondre. Alors, ça rappelle que la doctrine Gerasimov, on en a déjà parlé, mais ça ajoute encore. Alors, point suivant, s'il vous plaît. Et on retrouve aussi cette obsession. Alors, ça, c'est un texte en russe, c'est Dmitri Afanasyev, il est mort en janvier dernier. Est-ce que vous pouvez descendre encore un peu? Je vous ai fait la traduction. C'est très intéressant comment eux définissent la guerre hybride. Voilà. Ça, c'est un extrait du texte. Donc, pour eux, ils concèdent la lutte contre les crimes informatiques, etc., l'influence informationnelle. La concurrence et l'affrontement dans les domaines des médias de masse, et sur le plan idéologique et informationnel, s'intensifient. Et la transition informationnelle mondiale sert souvent d'outil universel de pression politique sur la société civile, non seulement de la part des structures étatiques, mais aussi des réseaux et formations terroristes. Un certain nombre de chercheurs, comme Aounitsky, c'est un conseiller du ministre de la Défense russe, parle déjà de ce qu'on appelle les guerres mentales visant à former un monde de post-humanité, à détruire la conscience de soi, à changer la mentalité et même la base civilisationnelle de la société ennemie. En fait, c'est ce que nous retrouvons dans la manière dont les Russes font de la guerre informationnelle, y compris contre nous. Il faut comprendre une chose. Vous avez une doctrine en Russie, alors ils l'ont remise en jour en 2016, c'était la doctrine de sécurité informationnelle. C'est une information que le seul site, c'est le seul document sur le site du Conseil de sécurité russe qui est traduit en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Les autres, ils ne sont pas russes. Et quand vous lisez le document, vous dites, c'est un document très défensif qui vise à former une doctrine, c'est une doctrine pour la Russie contre les attaques cyber, les fake news, etc., etc. Sauf qu'en général, je faisais un rapport de doctrine en apparence défensive, ça peut aussi servir à faire de l'offensive. Donc, quand vous voyez la doctrine de sécurité de l'information, qui doit normalement être remise à jour, vous voyez ça dans la presse russe, mais aussi ce que vous mettez ici, vous commencez à voir comment les Russes procèdent, et aussi leur but. Alors, on récite, là, suivant, s'il vous plaît. Alors, malheureusement, j'ai oublié de mettre encore une diapo, c'est dommage, je ne pense pas. Alors, je vous présente André Ivinitsky, donc le conseiller du ministre de la Défense, que je vous recommande vivement, si jamais vous vous intéressez aux questions de la guerre informationnelle, comment les Russes la voir eux. Il a fait tout un article paru en 2021 dans la revue Военная мысль, pensée militaire russe. L'article s'appelle « La guerre mentale de la Russie »,« Военная Россия », et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est-à-dire que les Russes, ils en mettent beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous pouvez mettre une petite carte, je l'ai ajoutée dans le dossier, c'est carte des ingérences russes. Carte des ingérences russes, voilà, c'est là. Et à quoi nous assistons aujourd'hui? À ceci. Voilà. C'est un document que j'ai obtenu. C'est une étude qui a publié en 2021 par l'Institut pour Strategic Studies, juste à côté de moi, où il vous détaille les attaques russes de tout type. Hein. Donc, sabotage des communications, de l'énergie, gouvernement, santé, industrie, militaire, transport, sous-marin, l'eau, et l'eau des autres types, les assassinats, les sabotages des GPS, etc. etc. Nous retrouvons tout cela aujourd'hui. Donc, vous voyez que les Russes ont beaucoup réfléchi sur ce sujet. Et aussi, il y a un autre constat que je fais. Comment nous étonnons toujours de nous dire, mais enfin, tantôt l'attaque informationnelle Intel contre la France et le fait du FSB, tantôt du GRU, tantôt du SDR. Moi, ça ne me surprend pas. Je vous ai montré la loi de 96 sur le renseignement extérieur. La loi de alors, on ne dit pas quels services sont concernés. Théoriquement, vous avez le SVR et le GRU, le renseignement militaire, mais vous avez la loi de 2003 qui a amendé la compétence du FSB. Et cette loi, en gros, appliquée au FSB, la loi sur le renseignement extérieur, donc le FSB a aussi cette compétence extrêmement large, parce que le FSB, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas la DGSI, le FSB. Non, c'est beaucoup plus large. Le FSB a en son sein la DRSB, pour les services militaires en France, l'ANSI, pour les systèmes de protection des systèmes d'information, les gardes frontières, c'est nous, c'est la police des frontières, ils ont leur propre magistrat instructeur, ils ont leur propre branche de renseignement extérieur, ils ont leurs propres unités d'élite, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un consortium extrêmement large. J'ajouterai autre chose encore. Pourquoi les Russes font ça? Pour de l'ingérence chez nous. Je suis assez d'accord avec la précision que faisait le rapport de l'IISS, c'est-à-dire que les Russes se sont dit, on va faire des pauses, mais il y a quand même des limites qu'on ne peut pas trop franchir. Ils ne vont pas hésiter à aller assassiner, par exemple, Sergueï Skripal au Royaume-Uni, par exemple. Ils ne vont pas hésiter à perturber, intimider. Ils vont tester la détermination du gouvernement européen, mais je pense qu'ils ne veulent pas non plus franchir une certaine ligne qui conduirait, par exemple, à l'envoi de troupes. De la troupe occidentale, je ne sais pas, une attaque sur Paris, ils se diraient, et là, la France réagirait, bon, là, on en a marre, on envoie des troupes en Ukraine. C'est la conclusion qui est arrivée sur un rapport. Alors, je note aussi, c'est très intéressant, l'impact cumulatif des attaques russes contre des cibles physiques, des cibles virtuelles, et bien des opérations informationnelles, a été de taper la résilience occidentale et de diviser les sociétés européennes. C'est un but. Donc, quand on parle d'attaque informatique, par exemple, c'est grave, mais le but, c'est soit de taper, soit de tester, à savoir quelle est la solidité de tel système informationnel pour, en cas de conflit réel, en connaître les failles. C'est toujours, en fait, tout le problème que nous avons du point de vue, par exemple, de l'informatique. Imaginons qu'un pays fasse une attaque informatique contre l'État. Les Ukrainiens l'ont fait, ils le disent ouvertement. Problème de taille, ou plutôt risque de taille. Les Russes, que les Français, nous faisons pareil. Hein. Nous examinons le modus operandi et nous pouvons le réutiliser ensuite dans le sens inverse. Je vous donne un exemple. Un jour, vous aviez eu une attaque dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les Russes avaient mis par terre un des opérateurs de téléphone, je crois qu'ils avaient supprimé des données, et une personne qui travaille sur ces questions de me dire que, en je me rends compte qu'ils ont réutilisé le mode opératoire que les Israéliens avaient utilisé pour taper sur les forces iraniennes, la fin de l'opération suspecte, à savoir qu'ils ont attaqué le système du CADA. C'est un logiciel de gestion qui dépend de Siemens, donc je crois que c'est Siemens, c'est une entreprise allemande de mémoire. Et toute cette thématique, bah, nous n'arrivons pas de la remarquer, je vous donne un exemple, les mains rouges. Donc que vous savez, c'est après le début du conflit palestinien, israélo-palestinien, enfin, de l'attaque de Gaza contre Israël, vous avez des marrons qui sont sur dans la rue. Lors du procès, vous avez le procès, vous accusez de dire non, c'est pas une opération d'influence pro-russe, c'est pour, comment dire, c'est en soutien avec la Palestine. Les petits malins. Après le procès, j'ai échangé avec Mathieu Suc de Mediapart et il m'a dit je veux faire un article sur le sujet et puis je peux faire des recherches pour tel personnage qui était dans parmi les interpellés. Donc j'ai commencé à faire des recherches, après j'ai pris des réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est contacté. Et j'ai découvert un joli commentaire qu'il avait posté juste après l'attaque des Hamas contre Israël, où il disait en gros, je vous cite, il y a eu plus d'enfants tués depuis le début de la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens que de morts d'enfants en Ukraine, mais de quel conflit on parle le plus? Ben, du conflit ukrainien. Bon, donc pour la solidarité avec le conflit palestinien, il faudra repasser. Mais ce que nous constatons aussi dans d'autres attaques, vous connaissez sans doute par exemple de l'attaque contre, quand ils ont posé des cercueils remplis de pierre sous la tour Eiffel. Et ça, c'est tous les signaux qu'ils nous ont envoyés, vous l'avez entendu. Vous voulez envoyer des soldats en Ukraine? Très bien. On vous les enverra dans des cercueils. Donc, ils ont balancé des infos, par exemple, vous savez, sur les soi-disant 50 mercenaires français qu'ils auraient tués dans une attaque, ceux qui n'ont pas été confirmés, ceux qui sont sans faux. Mais c'est une manière de nous dire, voilà ce qui va vous arriver. Et à un moment aussi, ils ont tué ces deux Français qui étaient dans une ONG suisse, je vous dis ça de mémoire, un bombardement russe. Là aussi, c'est pareil, c'est le même signal. Il y a encore un des Français, enfin, il a un profil un peu particulier quand on parle de certaines personnes. Voilà, je vous ai fait un petit peu un topo sur la guerre hybride. On y va sur le temps. Il me reste combien de temps, mais j'ai dépassé les 20 minutes. Alors, sur l'Ukraine, je remarquerai certaines choses sur leur manière d'opérer du point de vue de la guerre hybride. Vous avez des attaques informatiques, c'est clair, ici. Attaques informationnelles, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, parce que les Ukrainiens, c'est même s'il n'y a pas grand chose, ils craquent beaucoup dessus, ils ont créé des centres dédiés. Mais je constate que aussi, leurs attaques, quand ils font de l'attaque militaire, ils ne visent pas que les casernes, ils visent aussi les infrastructures. Et pour ça, ils utilisent beaucoup d'informateurs qui sont du jetable. En gros, telle source a fourni des informations sur telle usine, et ta usine. Ils demandent à la source de confirmer s'il y a eu des dégâts ou non, la source en général se fait très vite interpeller. J'ai vu quelques cas en examinant une base de données qui est impressionnante, c'est la base de données des tribunaux ukrainiens, qui est pleine d'informations. Côté russe, vous n'aurez pas ça. Au constat que je fais, la guerre hybride, elle est beaucoup importée sur le continent européen, comme on irait par là, et c'est ce que je remarque, c'est-à-dire que nous sommes face à une propagation de désinformation, de mensonges depuis le début du conflit qui est tout simplement impressionnant. Mais malheureusement, de la retrouve aussi sur les plateaux télé et des deux côtés. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que par exemple, à un moment, on nous faisait croire que les militaires allaient renverser Poutine. Bah bon, première nouvelle. Toute personne qui connaît un temps peu la Russie, c'est une chose. Le contrôle militaire du FSB a les militaires dans le collimateur, ils les surveillent. Donc si un colonel ou un général ou un lieutenant avait seulement exprimé l'idée d'aller renverser Poutine, le séjour à la prison de l'Éporte Rouge était garanti de suite. C'est parce que c'est comme ça qu'ils font. En gros, contrôle total, et ils n'ont pas arrêté de resserrer les vis, encore et encore. J'en parlais d'ailleurs dans mon interview au Figaro qui est paru hier de mémoire. Je vous remercie.
Merci. Certains pensent que je suis toujours en activité. Hein, donc, de toute façon, si c'était le cas, j'aurais été le meilleur espion du monde. Bon, c'est vrai qu'après Cyril, c'est assez difficile d'apporter quoi que ce soit, parce qu'en fait, il a survolé déjà tous les sujets. Ce que je voudrais souligner, c'est la mode. Ah, M. Bertrand Farouin, qui est mon éditeur. c'est la mode de parler de la guerre hybride. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui est réel. Il n'y a rien d'inventé. Mais comme Cyril a bien dit, en fait, quand on voit l'unité, les mesures actives, c'est la même guerre hybride qui va exister déjà pendant. En fait, la guerre hybride a existé déjà pendant au moins la Première Guerre mondiale, puisque quand on a commencé à imprimer les fausses Deutschmark pour ruiner l'économie de l'Allemagne, c'était déjà une guerre hybride. Et la guerre froide, celle à laquelle nous avons participé, c'est la guerre hybride. Parce que justement, par définition, on n'avait pas le conflit direct entre les grandes puissances, on s'interposait par les petites puissances régionales, et on se faisait une guerre froide partout où on pouvait la faire. Donc, si on veut avancer un peu sur cette question, je dirais que ce sont des méthodes et surtout les moyens qui ont changé. Le problème des Russes, parce que bien évidemment, Cyril nous a montré qu'ils sont mégalos, qu'ils se croient égal et ou égaux uniquement avec les États-Unis. Et donc, du coup, ils tombent dans le piège aussi. Parce que la Russie actuelle, c'est 15 fois moins économiquement que les États-Unis. 15 fois moins. Ça veut dire que c'est une toute petite puissance économique qui produit moins que la France. Avec le territoire qui est énorme, qui représente 17,5 millions de kilomètres carrés, qui a toute la domaine de l'élève dans son sol, et donc ça aurait dû être le travail de la première puissance mondiale, ce n'est pas le cas. Et donc en fait, les Russes ont toujours eu le problème de moyens, et d'où d'ailleurs la guerre hybride. En fait, ils ont vraiment exploité énormément pendant la guerre froide, parce que c'est le manque de moyens, y compris dans nos services. D'ailleurs, je dirais que la DGC fait exactement la même chose, parce que quand vous n'avez pas un budget de la CIA, vous êtes obligé de faire avec, et vous êtes obligé de vous débrouiller avec 100 francs moins d'argent. Et du coup, on est souvent plus efficace que celui qui a beaucoup d'argent, mais qui finalement n'arrive plus à le contrôler ou fait n'importe quoi. Et donc, c'était le cas et de la DGC, mais je laisserai Vincent parler pour son service. À ce moment-là, je peux me permettre. si jamais je dis des bêtises, des bêtises, je sais pas quoi. Et donc, en fait, pour aller vite, parce qu'après, on va arriver peut-être à vos questions, ce sera plus intéressant d'avoir un débat là-dessus. Les moyens de communication ont progressé tellement que vous avez un petit ado de 15 ans qui, au fin fond de la Russie, peut faire autant de dégâts que n'importe quel service d'il y a 40 ans. Avec un simple ordinateur, avec un simple smartphone, il va alerter ses copains, ils vont faire progresser une petite rumeur quelque part. D'ailleurs, en parlant de rumeurs, des attaques hybrides, Macron, qui était en Inde, les Russes ont créé encore un faux site de France Soir et ont sorti le truc comme quoi Macron était impliqué dans les affaires Epstein, dans les phases Epstein, et donc il a participé à toutes les saloperies que Epstein a organisées aux États-Unis, ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Le nom de Macron, bien évidemment, est mentionné comme. Parce que, en fait, c'est une énorme poubelle de 3 millions de pages qui nous ont sorti, et donc là-dessus, il y a juste des articles de presse, les conversations entre les autres, et donc on mentionne les noms, et comme ça on arrive à 500 mentions du nom de Macron, qui ni d'Aide, ni d'Adi, ni d'Adam, n'était pas dans la vérité. Et donc les Russes sont très forts par rapport à ça. Cyril a dit nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. La Russie l'est avec la France. Et c'est ça aussi le truc. Parce que vous savez, quand je suis rentré au KGB en 1984, donc Institut Andropov, un auditorium qui est trois fois plus grand que celui-là, mais on n'était pas plus nombreux que nous sommes aujourd'hui. Et donc, on nous dit tout de suite le rangement des ennemis avec lesquels l'Union soviétique est en guerre. l'Union soviétique se considère en guerre. Et la Russie de Poutine actuellement, elle se considère en guerre. Et après, nous, on dit tant qu'ils ne nous ont pas déclaré la guerre officiellement, on n'y participe pas. Bah si. Parce que la Russie, en fait, nous considère comme des ennemis. Enfin, je dis maintenant nous, parce que ça fait 25 ans que j'habite en France, et c'est la France qui m'a donné la vie politique, donc en fait, tu me protèges. Donc je m'associe à l'Europe et à la France. Et donc la Russie désigne la France, surtout que le président Macron a choisi d'être très actif les derniers temps. C'est lui qui jette parfois les petites phrases qui font bondir Poutine. Quand il a dit peut-être dans un avenir incertain, on pourrait prévoir quelques bottes françaises sur le sol ukrainien, ça fait bondir. En fait, ce n'était même pas une affirmation, comme quoi la France enverrait qui que ce soit ou que ce soit, mais rien que la phrase, que cette phrase, ça a fait bondir des gens qui ont Poutine. Mais en fait, en regardant la carte que Thierry nous a présentée avec tous ces points là, en Europe, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que, bien évidemment, tout ça, c'est vrai, peut-être même il y a des choses qui manquent. Hein, parce que vous savez, pendant les Jeux Olympiques, il y avait cette histoire avec deux centres de la SNCF qui étaient sabotés. Et donc, on a dit que ce sont les tarés syndicaux qui ont essayé d'utiliser l'occasion pour faire trop mal. Mais en fait, quand j'étais à la direction des illégaux avec le général Drozdov, nous avions l'équipe de Winpen qui était prévue de faire toutes les opérations de sabotage sur le territoire ennemi loin derrière les lignes. Donc en fait, c'était les illégaux qui devaient être en Europe. Et Drozdov nous a fait l'affirmation comme quoi, avec une unité de 25 personnes, il est capable de mettre par terre la France en une semaine. En gros, pour savoir où frapper, où mettre en fait, les ponts, les centres de tri, quelques aéroports, quelques grandes gares, et donc avec tout simplement une compagnie, si c'est bien organisé,